Est-ce que vous avez noté que la vie chrétienne, c'est quand même décrit comme une course? Et nous avons mentionné ça à la fête, une course, la course la plus difficile du monde, je l'ai mentionné à la fête. La course est souvent mentionnée et même, ce n'est pas juste une course, mais un marathon. C'est considéré comme un marathon. Et je crois que le contexte de notre journée aujourd'hui, c'est on a mentionné, on a souligné ceux qui sont les plus âgés parmi nous et le fait que eux, ils ont vécu plus que nous, les jeunes, et ils ont enduré plus que nous aussi. Donc, même vis-à-vis de mes enfants, je peux leur dire, parce qu'ils sont encore très jeunes, je sais que j'ai beaucoup plus enduré que toi. Donc, j'ai ça à, donc, simplement le fait que ces personnes plus âgées que nous ont enduré plus, ça demande un respect, juste pour le fait qu'ils ont enduré plus de la vie. Même si on a une vie facile, même si on a une vie de bénédiction, la vie apporte aussi, de temps en temps, ou même des fois beaucoup, la souffrance. Et ceux qui vont peut-être participer dans un marathon vont devoir souffrir pour terminer le marathon. Est-ce que vous avez noté dans les émissions télévisées, peut-être, ou dans, vous avez peut-être noté que dans les marathons, ceux qui participent au marathon semblent souffrir des fois, en particulier ceux qui ne sont pas les top 10 du monde, des fois ceux qui sont les Olympiens, ceux qui sont vraiment des professionnels, eux, ils s'adaptent un petit peu plus. Mais si vous et moi, si nous essayons de faire un marathon la semaine prochaine, on va considérer la souffrance, n'est-ce pas? Il y a eu même un article dans le New York Times par Mary Wittenberg. C'est le président et le chef de New York Roadrunners, ceux qui font la course à pied à New York. Et c'est le groupe qui sponsorise le marathon de New York City. On a demandé, Madame Wittenberg, comment ceux qui allaient participer jusqu'au bout et gagner même pour avoir les top 3 ou les top 10 dans les marathons, on lui a demandé comment est-ce qu'ils étaient capables de poursuivre, d'aller jusqu'au bout pour gagner. Et c'est intéressant, je trouve ces commentaires très intéressants. Elle a dit la ténacité mentale et la capacité de gérer et même d'être poussé par la douleur et la souffrance. Elle a dit ceci est quelque chose qui sépare ceux qui sont capables de concurrer pour gagner la course et ceux qui sont moyen. Elle a dit aussi, vous le voyez même dans la figure, dans le visage de ceux qui participent dans le marathon. Vous voyez dans leur visage une certaine souffrance et même, elle a mentionné que des fois, il y a la salive qui pousse partout, que le nez coule, que les choses ne sont pas très beaux à la fin d'un marathon pour ceux qui ont participé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très beau à la fin, mais pour arriver au bout, il faut que ces gens poussent encore plus. Et même pour gagner, il faut vraiment pousser le corps, il faut mettre le corps au défi. J'aime beaucoup cette citation et cette discussion parce que des fois, quand on considère des athlètes qui sont des élites de l'athlétisme, on considère que pour eux, tout est facile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas dans un marathon. Ils ont peut-être un don physique et ils se servent de leur don physique. Et des fois, il peut sembler plus facile, mais eux aussi, même les élites de l'athlétisme, passent par la souffrance aussi. Ils sont juste plus capables ou plus adeptes à l'endurer. Donc, quand on considère la vie chrétienne, est-ce que nous considérons l'endurance? Faire face à la souffrance. Alors, la vieillesse, en fait, ça nous met en face ou ça nous met devant nous la possibilité d'endurer, la possibilité de se sentir l'âge arrivé et même de passer par la douleur et la souffrance. Donc, juste le fait de vieillir, ça fait passer par ces choses. Alors, l'endurance est un aspect clé pour profiter de sa vieillesse. Hein? Mais dans la Bible, les membres du corps de Jésus-Christ, les membres de l'Église, sont dans une course. Souvent, c'est un marathon qui est mentionné et ça prend de l'endurance. Alors, est-ce que nous pouvons développer l'endurance? Bien sûr que oui. Nous pouvons développer de l'endurance. On n'est pas simplement né avec des qualités de l'endurance quand il s'agit de la vie chrétienne. Mais avec l'aide de Dieu et son esprit en nous, nous pouvons développer l'endurance nécessaire pour terminer la course, pour achever la course, pour gagner la couronne, ce dont nous avons déjà parlé. La Bible est remplie d'instructions à propos de l'endurance. En fait, quand nous cherchons l'endurance ou la persévérance, d'après certains commentaires, il y a plus de 118-120 versets qui contiennent les mots endurance ou persévérance. C'est beaucoup de versets. Donc alors, aujourd'hui, considérons en premier des exemples de quelques personnes dans la Bible qui ont déjà terminé la course et qui ont eu de l'endurance pour arriver jusqu'au bout. Si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez vous reporter au livre de Hébreux, à l'épître aux Hébreux, chapitre 11. Quand on pense à Hébreux 11, on pense à la foi, certainement. On pense à la foi. Mais quand on pense à Hébreux 11, il y a aussi des exemples de l'endurance. Les gens qui n'ont jamais lâché. Les gens qui ont continué malgré la difficulté qu'ils ont vécue dans leur vie. Je crois que ce sujet est à propos pour nous aujourd'hui avec notre brunch des années, avec nos aînés parmi nous et le fait que eux aussi, ils ont des histoires, ils ont du vécu, comme on dit en bon français. Ils ont du vécu vis-à-vis de l'endurance. Ce n'est pas garanti d'avoir une vie facile, mais d'avoir une vie longue fait partie de l'une des bénédictions les plus importantes que Dieu peut nous donner. Une vie longue et en paix, c'est quand même une bénédiction. Ce n'est pas garanti, par contre. Donc, Hébreux 11, on va commencer avec l'exemple de Abraham. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts aussi. Il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est vraiment intéressant que cet acte, ce miracle qui a eu lieu, que Dieu intervienne pour éviter le sacrifice d'Isaac, c'est quand même quelque chose qui est une préfiguration. Intéressant. Mais intéressant aussi, c'est le mot pour ressusciter les morts. Dieu est puissant. Et c'est intéressant parce que ce que Dieu avait demandé à Abraham, c'était de sacrifier son fils, ou au moins de se préparer pour ça. Abraham avait déjà attendu longtemps pour quelqu'un, pour Dieu, d'intervenir pour lui donner un fils. Et il savait que sa femme, Sarai, était sans la capacité d'avoir des enfants, et il avait mis sa confiance en Dieu, que Dieu allait pouvoir. Alors, il n'a pas hésité, même avec son fils unique, il n'a pas hésité d'obéir à Dieu quand Dieu lui a demandé de faire ça, de faire quelque chose qui était contraire au raisonnement humain. Alors, j'ai attendu tellement longtemps pour avoir un fils avec Sarai. Et maintenant, j'en ai un. Et qu'est-ce que tu me demandes, Dieu? Tu me demandes de lui donner en sacrifice. Ça n'a pas de sens humainement. Mais Dieu s'est servi de cet exemple pour nous aussi, pour une démonstration envers nous de la foi d'Abraham. Mais pour moi, ça, c'est une épreuve, n'est-ce pas? C'est quand même une épreuve difficile de faire face à l'idée de sacrifier son fils. Dieu nous a démontré l'importance de cet acte de fidélité, cet acte de confiance, justement, dans le pouvoir de Dieu pour ressusciter les morts. Abraham avait 100% de confiance en Dieu. Et puis, avec le temps, Dieu a développé une certaine confiance en lui aussi. N'est-ce pas la même chose pour nous? Avec le temps, avec l'expérience, c'est Dieu qui développe une confiance en nous. Est-ce que Dieu est capable de nous faire confiance? Si nous considérons ce livre de Hébreux, nous voyons que il y a beaucoup à dire ici sur la foi d'Abraham et la foi de plusieurs autres. Mais malgré cette démonstration de reconnaissance ou de fidélité envers l'Éternel, Abraham est passé par des épreuves quand même. Ces épreuves ont mis à l'épreuve sa foi. Et il s'est développé avec le temps, avec la patience, avec la miséricorde de Dieu, et il s'est développé en quelqu'un en qui Dieu avait confiance. Alors, Dieu peut faire la même chose pour nous. Il peut patienter, il peut nous donner des choses à surmonter, il peut nous mettre dans une situation qui révèle la vérité de notre foi. Mais il ne fait rien pour juste se moquer de nous ou pour jouer avec nous. Il le fait pour un but particulier. Il développe son caractère en nous et il voudrait voir aussi si nous pouvons avoir cette confiance et si lui, il peut nous faire confiance. Donc, est-ce que Dieu nous demande de sacrifier quelque chose? Oui. C'est pour ça que nous considérons le coût, nous considérons avant de se faire baptiser, on considère l'engagement à vie que Dieu met devant nous. Donc oui, certains ont quitté la famille, certains ont quitté un job, un poste, un travail, certains ont changé de carrière totalement, certains ont fait d'autres sacrifices pour obéir à Dieu. Donc, dans un sens, Dieu nous demande de faire des sacrifices, mais comme nous avons récemment mentionné, ce que nous donnons, Dieu nous donne davantage plus. Il nous donne encore plus. On ne peut pas donner plus que Dieu. Mais considérons un petit peu plus en détail avant d'aller plus loin. Considérons juste Genèse 25. Intéressant, dans le contexte d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des bénédictions de la vie, de l'âge et d'une vie paisible. Et en fait, Abraham a reçu cette bénédiction. La promesse de Dieu envers Abraham était assez physique dans ce sens. Et Genèse 25 nous explique ceci. On voit un peu dans ce passage la fin de la course pour Abraham en termes de sa vie physique. Et c'est quelque chose qui nous attend tous, n'est-ce pas? On doit accepter que la fin de cette vie physique va venir un jour. Si Christ ne revient pas tout de suite pour nous changer en esprit, ça va nous arriver. Et donc, on doit se préparer. Mais Dieu nous bénit avec une préparation. Il voudrait que nous considérions cette vie comme importante. Ce n'est pas pour rien qu'il nous donne le temps ici-bas. Donc, Genèse 25 et le verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. On voit la fin de la vie d'Abraham ici. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Donc, il avait une heureuse vieillesse. Il n'a pas juste eu une heureuse vie, et puis il a, en mourant très jeune, mais il a eu une heureuse vieillesse. Et il a eu aussi une postérité. L'autre promesse de Dieu était accomplie aussi. Donc, les deux sont un peu mentionnés dans ce passage parce qu'il a donné l'héritage, les biens à Isaac. Il avait vraiment un fils que Dieu l'avait donné. Ça, c'est une grande bénédiction. Et puis, le verset 7 et 8 nous montrent que aussi, juste le fait qu'il avait une heureuse vieillesse, c'était une bénédiction. Ce n'était pas garanti, mais c'était une bénédiction pour lui. Tout comme Abraham, nous ne pouvons rien prendre avec nous quand nous mourrons. Quand nous allons décéder, mais l'esprit que Dieu nous donne et le caractère que Dieu développe en nous, c'est ça que nous pouvons amener avec nous. Dieu a promis, comme à Abraham, Abraham vivra jusqu'à un âge avancé et va mourir en paix. Ce sont deux promesses physiques que Dieu a données à Abraham. Et ce sont encore de grandes bénédictions aujourd'hui. Quand on pense à la vie, on a certains désirs, on voudrait certaines choses des fois. On devient un peu aujourd'hui distrait de l'essentiel, je crois. Et c'est facile à devenir distrait de l'essentiel. Est-ce qu'on peut se contenter d'une vie longue et heureuse, en paix? Ou est-ce que il faut aussi beaucoup d'argent, une grande maison, une voiture que nous aimons beaucoup, les choses comme ça? Est-ce que on complique un peu les choses au lieu de rester sur l'essentiel? Je crois que l'une des clés pour arriver jusqu'au bout et pour courir avec endurance, c'est de se focaliser sur l'essentiel. C'est de ne pas être distrait par d'autres buts. Si vous prenez quelqu'un qui court dans un marathon, il ne va pas arrêter au McDo pour prendre un sandwich et puis revenir sur la course. Non, il va continuer sur sa course. Il va rester avec son objectif en tête. Mais ce n'est pas ça que le monde nous dit aujourd'hui. Le monde voudrait nous distraire, nous dire « Ah, tu peux juste t'arrêter un moment, hein? T'as pas besoin de courir en tout temps. » Mais ce n'est pas vrai. On est censé de continuer d'avoir de l'endurance et de ne jamais lâcher. Donc, si nous faisons de temps en temps une comparaison entre la relation de Dieu avec Abraham et la relation de Dieu avec nous, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que dans notre vie, nous pouvons nous souvenir de plusieurs exemples où Dieu est intervenu pour nous? Moi, je sais que je suis encore un peu jeune et j'ai beaucoup d'exemples dans ma famille, autour de moi, même parmi vous. Vous avez déjà démontré et partagé avec moi des exemples où Dieu est intervenu. Et c'est quelque chose que nous partageons. C'est encourageant d'entendre le vécu dans ce sens-là. C'est sûr qu'on peut aussi partager nos souffrances. On peut partager les souffrances actuelles ou passées. Mais c'est nettement plus intéressant quand nous disons « je souffrais et Dieu est intervenu pour moi ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous inspire, qui nous pousse d'aller plus loin, étape par étape. Vous savez que moi, j'aime beaucoup faire la course à pied aussi, pas dans les marathons, mais j'aime beaucoup faire mon jogging, hein, on va dire le jogging. Et des fois, depuis quelques années, c'était pas le cas quand j'avais 18 ans, mais depuis quelques années, souvent quand je fais ma course à pied, vous savez ce que j'ai en tête? J'ai mes enfants. Quand je le fais, je me dis en courant, ça fait mal. Mais ce que je fais, c'est je me préserve pour mes enfants. Je voudrais jouer avec mes enfants et mes petits-enfants. Donc si je reste en forme, Dieu me donnerait peut-être la possibilité de jouer avec mes petits-enfants, d'être en forme pour jouer avec eux. Et c'est un peu pour ça, je suis inspiré par ça, par mes enfants. Et dans la vie chrétienne, nous avons peut-être les promesses de Dieu qui nous inspirent. pour que nous continuions à surmonter certaines épreuves et le péché aussi. Donc, nous gardons en tête ces choses, ces promesses, ces moments où Dieu est intervenu pour nous et en plus ses promesses pour l'avenir. Et on fixe nos yeux sur le royaume de Dieu. Donc, c'est ça. La foi d'Abraham a grandi avec le temps jusqu'au point que Dieu lui a demandé de faire quelque chose de vraiment exceptionnel, qui démontre à nous tous une foi qui est active, qui est vivante, une foi sincère, quelque chose où on se doute pas de cette foi. Et puis, très intéressant, Dieu se sert de ce même processus pour donner son Fils en sacrifice pour nous. On s'approche à la Pâque, on s'approche à la fête des pains sans levain, et on se prépare pour la Pâque en considérant l'exemple de comment Dieu a donné, Dieu le Père, a donné son Fils pour nous. Et c'est intéressant comment ceci est répété dans l'exemple d'après Abraham et Isaac. Encore une fois, comme je vous ai dit, Dieu donne toujours plus que nous. Alors, continuons un peu plus loin dans Hébreux, chapitre 11. Considérons maintenant le verset 27 et l'exemple de Moïse. En pensant au sacrifice, au changement et à la course, l'idée d'abandonner les choses derrière nous, la vie de péché, la vie qui est derrière nous, considérant l'exemple de Moïse. Hébreux chapitre 11 et le verset 27. Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi que, bon, c'est Moïse dont on parle ici, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ah, ça, c'est vraiment lié à la foi, n'est-ce pas? C'est les choses invisibles que nous sommes capables de voir. C'est dans le verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est le verset 1, excusez-moi. Et puis maintenant, on est dans le verset 27 et on voit que c'est ça. Les choses invisibles sont importantes aux yeux, si vous voulez, de Dieu. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au père premier-né des Israélites. On s'approche de la Pâque. Très intéressant que Moïse a obéi à Dieu. Il a quitté sa position en Égypte et il a dû endurer la colère du Pharaon à plusieurs reprises. Il a dû endurer cette colère jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Il a dû endurer cette colère intense parce que il faisait presque partie de la famille du Pharaon. Moïse était comme un prince en Égypte et puis il s'est tourné le dos à cette famille royale afin d'obéir à Dieu. Il a abandonné certaines choses derrière lui. Est-ce que nous serions capables de faire le même choix, de faire le même sacrifice si on se trouvait dans la maison du Pharaon? Encore une fois, il y a des parallèles avec le monde qui nous entoure. Le monde nous offre des richesses. Le monde nous offre ce que le monde définit comme une liberté. Et nous avons été appelés pour sortir de ce monde, pour avancer envers Dieu. Bien sûr, Abraham et Moïse ne sont pas les seuls exemples de ce chapitre. Il y en a d'autres qui avaient la foi, qui sont des exemples de la foi. Considérant jusqu'au verset 35 des femmes, ce sont d'autres qui avaient la foi, parce que l'écrivain, celui qui a écrit Hébreux dit, car le temps me manquerait pour parler de toutes ces personnes et leurs exemples précis. Mais après, au verset 35, il dit, des femmes recouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Appelée pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Appelée aujourd'hui dans cette vie pour faire partie des prémices aujourd'hui. Ça, c'est une meilleure résurrection. C'est la première résurrection. Verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Cette photo-là n'est pas très belle, mais c'est la réalité. Ça fait penser au marathon. La photo à la fin n'est pas toujours très belle à la fin d'un marathon. Des fois, les gens tombent presque évanouis à la fin d'un marathon. Ils vont rester par terre. On va voir un ami s'approcher d'eux et d'essayer de le sortir du chemin. Des fois, la fin d'un marathon n'est pas très jolie. Ici, ce n'est pas une photo très jolie, mais c'est quand même la victoire, n'est-ce pas, vis-à-vis du monde. Ce sont des gens qui avaient la foi jusqu'au point d'endurer tellement de choses jusqu'à la mort. Ceci est un témoignage pour nous. Verset 39, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur avait promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, cherchez à obtenir le plaisir. Le désir, c'est de plaire à Dieu, d'obtenir la volonté de Dieu, de faire sa volonté. Et donc, dans l'exemple de Moïse, nous avons encore l'exemple, mais on voit que ce n'est pas juste ceux qui sont les piliers de la foi qui sont mentionnés ici. Ce sont des gens simples comme nous. Ce sont des gens qui ont enduré jusqu'à la fin. Donc, ces exemples de Hébreux 11 devraient nous rappeler de notre engagement et comment nous avons besoin de terminer la course, de pousser jusqu'au bout. Les héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11 n'ont pas eu la vie facile. Pourquoi la nôtre serait plus facile? Donc, si nous continuons au chapitre 12, nous trouvons notre prochain point de l'instruction de mettre de côté certaines choses, de rejetant tout fardeau, de rejeter tout fardeau. Un fardeau, c'est quelque chose qui pèse sur nous. Donc, l'un de mes passages favoris vis-à-vis de l'endurance, c'est dans Hébreux 12, après le chapitre 11 avec les héros de la foi, on a ici au début du chapitre 12 quelque chose pour nous. Nous donc aussi. Ça tourne dans la perspective, nous sommes ciblés maintenant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est grand, ce chapitre-là, ce passage-là. L'idée ici, c'est de mettre de côté le fardeau. Si on porte un fardeau pendant un marathon, est-ce qu'on va arriver au bout? Très, très difficilement. Très difficilement. Et peut-être pas. Quel est le fardeau que nous devons mettre de côté? Quel est le fardeau que Dieu avait demandé à Israël de mettre de côté quand ils sont sortis d'Égypte? C'était vraiment de l'idolâtrie qu'ils avaient demandé, qu'ils aient été demandés de mettre de côté. Parce que eux, ils pratiquaient de l'idolâtrie. Ils avaient même pensé à amener leurs idoles avec eux dans le désert. Et puis en construire en or. Nous savons que cette génération n'a pas réussi. Cette génération n'est pas entrée dans la terre promise. Ils n'avaient pas la possibilité de laisser derrière eux cette vie en Égypte. L'esclavage aux faux dieux d'Égypte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les aînés qui sont parmi nous aujourd'hui. Si Christ vit en nous, nous ne sommes pas aussi âgés que nous pensons. Nous sommes nouveaux dans un sens. Considérant Éphésiens 4 et gardons en tête l'idée de mettre un fardeau de côté, quelque chose qui pèse très lourd. Qu'est-ce que c'est dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que c'est ce fardeau? Paul va nous instruire ici dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, on va commencer au début de ce passage, verset 17. Verset 17. Considérant le fardeau, quelque chose que nous devons laisser derrière nous, c'est quoi? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangères à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça me fait penser beaucoup aux enfants d'Israël. Mais ce n'est pas ça le sujet ici. C'est les païens qui sont autour de ceux qui habitaient à Éphèse. Verset 20. Mais vous, on tourne encore la perspective envers nous. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme. Donc, si on résume, se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est ça, hein? Nous avons discuté au départ, n'est-ce pas, l'idée de renouveler, une réunion pour le renouveau de la foi, un revival, une sorte de renaissance spirituelle, si on peut utiliser cette phrase, cette expression, une renaissance spirituelle. C'est comme ça que nous allons vivre une renaissance spirituelle. Intéressant. Le mot « renouveler » est utilisé plusieurs fois ici. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas aussi vieux que nous pensons, parce que nous sommes capables de se revêtir de l'homme nouveau. On peut être revêtu de l'homme nouveau et on peut vivre une vie différente, une vie qui va continuer, une vie qui va continuer après la fin de cette vie physique. Intéressant. Nous vivons maintenant dans l'esprit. Nous vivons maintenant pas pour les choses charnelles, pas pour juste une vie longue et heureuse physique, mais nos efforts sont pour l'au-delà maintenant. Nous sommes une création nouvelle. Intéressant que nous sommes créés, cet homme nouveau est censé être créé selon Dieu. Ça veut dire à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous incorporons le caractère de Dieu. Nous imitons Dieu, nous imitons Jésus-Christ qui a montré l'exemple parfait. Intéressant aussi les deux mots ici. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est quand même très puissant. L'homme nouveau est né, si vous voulez, avec des qualités de la justice et la sainteté. Est-ce que ce n'est pas très à propos pour la fête des pains sans levain et la préparation pour la Pâque, l'idée de parler de la justice et la sainteté de la vie chrétienne? Ces qualités produisent la vérité, la sincérité. Ces qualités produisent le renouveau de la foi que nous cherchons. Si on a stagné, si on est un peu stagne pour le moment, si on ne se développe pas, si on n'est pas en train de vivre la croissance personnelle, spirituelle, ces qualités-là, revêtues de l'homme nouveau, la justice, la sainteté, ça va produire quelque chose qui dure à jamais. Versets 21 et 22, je souligne, « Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme. » Voilà le fardeau. Est-ce qu'on va porter avec nous le vieil homme ou est-ce qu'on va se débarrasser du vieil homme? C'est un choix. Il y en a qui veulent donner un lift au vieil homme, qui veulent que le vieil homme revienne de temps en temps. On va faire quelque chose ensemble avec le vieil homme de temps en temps. Malheureusement, le vieil homme essaye de nous rattraper des fois. À notre job, notre rôle, c'est de se dépouiller, de ne plus parler avec lui, de ne plus s'adresser à lui, de ne plus dépendre de lui, mais de garder les yeux fixés en avant. Le vieil homme, et je ne parle pas du tout de quelqu'un qui est vieux dans le sens physique, mais le vieil homme, ce sont nos habitudes du passé. Et si nous avons vécu assez de temps, nous avons déjà rencontré de nouveau le vieil homme de temps à autre. Mais l'idée, c'est de ne le pas inviter chez nous, de ne pas permettre que cette vie s'installe de nouveau en nous, de rester écarté de ces choses. Parce que les qualités, si vous voulez, du vieil homme, ce sont la corruption, ici c'est mentionné, la convoitise, entre guillemets la rébellion contre Dieu. Ah, tu pourrais juste aller par là pour prendre le raccourci. Donc, encore une fois, nous pouvons lire Hébreux 12 et le verset 1 avec ça en tête. Hébreux chapitre 12 et le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Non, non, non. Faut savoir dire non. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Donc c'est ça, regardez en avant. Regardons en avant. À ne pas regarder comme la femme de Lot en arrière, qui voulait pas vraiment peut-être quitter Sodome. Nous ne pouvons pas porter avec nous le vieil homme si nous allons terminer la course, si nous allons persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez imaginer porter quelqu'un avec vous la distance d'un marathon? Alors, verset 2, nous avons mentionné ici au verset 2 les regards sur Jésus. Mais il y a aussi un mot intéressant. Il a souffert la croix, la crucifixion. Il a souffert la crucifixion. Il n'a pas simplement souffert des douleurs physiques, mais aussi, il était méprisé. Aussi, il a eu des menaces, des insultes. Donc, il a souffert aussi spirituellement dans ce sens-là. Nous aussi, nous sommes censés à imiter son exemple parfait. Oh, avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Le monde voudrait nous tirer de ce chemin. Quand les choses ne vont pas comme prévu, quand nous avons des épreuves, le monde nous dit il y a toujours une voie de sortie. Il y a toujours une voie de sortie. C'est pas cette voie-ci, prenez cette route-là, c'est plus facile. C'est ça que le monde nous dit des fois. Mais est-ce que nous sommes engagés jusqu'au bout pour endurer comme Christ jusqu'à la fin? Est-ce que nos petites troubles, nos petites épreuves de temps en temps deviennent quelque chose de trop importante? Est-ce que nos réactions sont un peu trop brusques des fois vis-à-vis d'une toute petite chose quand la vie n'est pas totalement parfaite? Je crois avec le temps et avec l'expérience, nous comprenons tous que nous avons besoin d'être plus stable, d'être plus équilibré et de ne pas être perturbé complètement par une petite affliction. Dieu nous a déjà donné l'exemple de son Fils comme un exemple parfait, beaucoup plus fort que nous. Mais nous sommes capables, avec sa force, d'endurer jusqu'à la fin. En fait, c'est très intéressant à considérer, c'est que Jésus-Christ a couru jusqu'au bout de sa course pour nous. Il n'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour nous. Il ne cherchait pas son propre salut, mais il voulait nous donner accès à la vie éternelle. C'était ça que lui, il avait en tête. C'était servir le Père et faire en sorte que sa volonté soit faite. L'idée d'amener beaucoup de fils à la gloire. Et en ce moment dans l'année, nous pouvons considérer cette souffrance à notre place. Considérant 1 Pierre 2, c'était un choix personnel, c'était volontaire, quelque chose qu'il a fait pour nous. Et il continue à donner l'exemple de servir, d'aimer, d'être compatissant envers nous. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs pour Dieu. Et dans ce passage de 1 Pierre 2, on peut commencer au verset 18. « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont un caractère difficile. » Puis le verset 19. « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Est-ce que quelqu'un ici a déjà souffert injustement? Injustement, j'espère qu'on a quelques exemples. Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Ouais, c'est sûr qu'on peut mériter certains problèmes, hein, n'est-ce pas? On peut apporter des choses sur nous, des fois, si on a commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Très puissant. C'est à cela que nous sommes appelés. Si vous cherchiez d'autres nouvelles, comme quoi on est appelé à une vie pleine de richesses physiques et sans douleur, désolé, j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Il est déjà écrit. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à passer par la souffrance, en faisant le bien, Autrement dit, c'est naturel, si on fait le mal, de souffrir. Mais il faut pas se confondre, il faut pas se tromper. En faisant le bien, on va toujours souffrir. Mais vous savez la différence? On va souffrir avec Dieu à notre côté, avec Dieu qui nous aide, qui nous soulage, qui s'occupe de nous. On va souffrir avec nos frères et sœurs, on va souffrir avec nos amis dans l'Église, on va souffrir entouré d'autres frères de la même voie que nous. On ne va pas souffrir tout isolé. Vous savez que malheureusement, les incidences de suicide sont augmentées dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup qui souffrent tout seuls. Et même maintenant, le gouvernement dit, si vous pensez que vous souffrez trop, voilà. Vous avez le droit d'aller prendre cette voie de sortie. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est humain de promulguer ça? De dire, voilà, la voie de sortie. Qu'est-ce que ça crée dans la psychologie d'un humain? Si notre culture adopte ces choses, inculque ces choses-là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une idée que dès que je commence à souffrir, il y a une voie de sortie. Est-ce que l'endurance va se développer si on fait ça? Non. L'endurance, c'est de dépasser, de faire face à la souffrance. Non, pas simplement de tourner le dos à la souffrance, de l'ignorer, de s'échapper de la souffrance, d'éviter à tout prix les souffrances. Non. Mais c'est ça, le monde. Le monde voudrait nous offrir la possibilité de, hop, c'est fini. Plus de souffrance pour vous. Moi, je suis vraiment étonné que ça, c'est devenu un programme, même côté mental maintenant. Il y a des arguments, ça va être un délai plus loin, mais ils ont dit que maintenant, si on se dit on a un problème mental aussi, on peut prendre la voie de sortie. Sponsorisé par le gouvernement. Donc, nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas ici parce que nous avons pris la voie de sortie facile. Nous sommes ici parce que nous avons déjà choisi cette vie à quoi nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés, à cette voie. Mais nous sommes ici ensemble. Nous pouvons nous réjouir que nous soyons entourés d'autres qui sont là pour les mêmes raisons. Et alors, nous pouvons continuer à persévérer ensemble, et quand l'un souffre, nous souffrons tous. Quand l'un se réjouit, nous nous réjouissons tous. J'aime beaucoup me réjouir avec vous. Je trouve que ça a été très bien ce matin. On s'est réjouis ensemble. On a déjà pleuré avec nos frères aussi. Ça, c'est un honneur. Ce n'est pas un grand plaisir. Mais c'est un honneur de pleurer avec un frère. Notre job, notre rôle, c'est de continuer ensemble. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est Christ qui nous fortifie. Ce n'est pas une voie facile, mais nous sommes entourés d'un nuée de témoins, d'entraide, de soutien, de l'Esprit. Considérant ces exemples précieux, considérant les exemples de nos aînés qui ont beaucoup enduré déjà comme précieux, ne soyons pas comme ceux qui vont négliger, qui vont oublier ces exemples. Si on est trop égoïste, on va juste se concentrer sur nous. Et si on s'occupe les uns les autres, c'est en ce moment-là que nous allons réussir à se développer, à croître. Intéressant que si on va un peu plus loin dans Hébreux 12, verset 3, il y a d'autres instructions liées à ça. L'idée de continuer, persévérer. Verset 3, souvenez-vous des prisonniers, Hébreux chapitre 12, excusez-moi, verset 3, pas 13, mais 12. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Ça continue, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ça notre lutte à l'approche de la Pâque. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et puis au verset 7, supporter. Encore, c'est comme endurer. Persévérez, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais, verset 8, si vous êtes exempt du châtiment auquel tout s'empare, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc notre Père Céleste nous traite comme des fils, comme des enfants. Et si nous avons vécu la correction, c'est pour notre bien. Mais nous devons continuer à travers ces choses. Nous ne sommes pas seuls. Un peu plus loin dans le verset 12, fortifiez donc vos mains languissantes. Quand je pense à ça, je pense à quelqu'un âgé qui manque la force. Et on va s'occuper d'eux. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Dieu est capable de nous guérir, de nous rendre plus forts, de nous donner la force pour tenir jusqu'au bout. Et puis, Hébreux 13, c'est un rappel les uns les autres qui sont là. Parce que Dieu donne la force, Dieu donne une bénédiction de guérison, mais des fois, Dieu donne aussi un soutien à travers un membre de l'Église. Donc, c'est pour ça que Hébreux 13 dit, persévérez donc dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça continue au verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Wow, ce sont des phrases très, très, très puissantes ici. Je ne t'abandonnerai pas. Ça me fait penser à Josué, début de Josué 1, verset 5. C'est la même phrase. Encore une fois, c'est mentionné dans 1 Chronique 28, verset 20 aussi. David l'a dit à son fils. La même expression. Que Dieu nous n'abandonne point. Donc, c'est une promesse. Dieu nous abandonne point. Même si nous ne nous sentons pas toujours une connexion forte avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés. C'est à nous de brancher de nouveau. Si on perd la connexion, c'est à nous de rebrancher. Parce que nous sommes déjà appelés. Nous sommes déjà mis à part aussi, comme des saints. 1 Pierre 1. Nous avons du travail à développer l'endurance. C'est un travail qui revient en tout temps, qui est continuel, qui se développe avec des années, avec de l'effort, qui aussi, l'endurance peut aussi, si on s'arrête à s'entraîner physiquement, on peut perdre l'endurance, même si on en a développé. C'est la même chose avec la vie chrétienne aussi. Il faut le pratiquer, pour la mettre en pratique, la parole de Dieu. C'est ça, la foi vivante que nous avons vue dans les héros de la foi. Ils ont mis en pratique la foi. Ils ont fait des choix difficiles. Ils ont fait des sacrifices. Mais ici, nous développons, c'est Pierre qui nous instruit, 1 Pierre 1 et le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Si Dieu nous appelle d'être saints, si Dieu nous montre le chemin, c'est comme ça que nous arrivons à être saints. Nous sommes mis à part par Dieu. Ce n'est pas nous qui avons engagé Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés à sortir, à changer de direction, à courir la bonne course vers le royaume de Dieu. Donc, nous devons développer ces choses. Saigner les reins de votre entendement. C'est une expression un peu moins connue aujourd'hui. Mais ça veut dire que nous devons rester sobres, nous devons préparer notre esprit et notre espoir aussi. Quand nous attendons, quand nous croyons, quand nous pensons au retour de Christ, nous pensons à l'installation du royaume de Dieu ici-bas. Il y a d'autres choses qui doivent se passer avant. Ne soyons pas des entendeurs, des ceux qui écoutent et puis ceux qui oublient après. Mais continuons à développer. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Nous avons des promesses pendant cette course à pied, pendant ce marathon, des promesses. Nous méditons ces promesses, nous méditons tout ce que Dieu fait pour nous et tout ce qu'il a déjà fait. Et c'est cela qui nous pousse chaque année. Et cet engagement que nous avons déjà mentionné, cette fidélité envers l'alliance avec Dieu, devrait nous solidifier, devrait nous fortifier ensemble. Parce que nous sommes tous là pour les mêmes raisons. Alors, frères et sœurs, si nous considérons le marathon devant nous, si nous considérons tout ce que nous avons déjà vécu, n'est-ce pas encourageant de croire et de penser et de méditer que Dieu est là avec nous? Il est à notre côté. Il s'occupe de nous. Il va veiller sur nous. Il nous protège. Et même si nous rencontrons des difficultés, c'est avec sa force que nous réussissons. Donc, dans la préparation pour la Pâque et les jours à venir, considérons notre course, considérons l'idée de se débarrasser, de se dépouiller du vieil homme et de courir avec persévérance.